Docteur Laplante, vous avez fait une enquête ou un état des lieux en quelque sorte sur l'isolement et les conditions de travail en agriculture. Quels sont les éléments qui ressortent de cette enquête ou bien les points marquants?
Les points marquants que nous avons petit à petit accumulés, c'est d'abord de dire que sur une question comme celle-là, nous ne pouvons pas avoir de certitude. Il n'y a pas de modèle de prise en charge. Et chaque fois que nous rencontrons un nouvel agriculteur ou un nouveau salarié agricole victime d'une dépression ou d'idées noires avec l'envie de se suicider, chaque fois il s'agit d'une situation différente. Voilà, ça c'est déjà un point très important. Pas de certitude sur cette question. Et puis ensuite, ce que nous avons vu, et plus particulièrement s'agissant des agriculteurs, c'est une situation particulière. Alors, un certain nombre de facteurs de risque existent chez les agriculteurs. L'intrication de la vie privée et de la vie professionnelle, que l'on trouve aussi chez les artisans commerçants, est un premier problème. Le deuxième problème, peut-être assez marquant, c'est que les temps sociaux de l'agriculture sont différents de ceux de l'ensemble de la société, et je m'explique. En élevage en particulier, on travaille 7 jours sur 7 et il est difficile de se libérer le week-end, voire même pour beaucoup de prendre des vacances ou des loisirs. C'est encore un peu vrai malgré les services de remplacement. Donc ces temps de l'agriculture avec les charges très importantes au moment des récoltes sont des temps qui ne sont pas ceux de la société et en particulier des 35 heures. Et ça, c'est quelque chose qui fait problème. Et puis, le célibat en agriculture est un facteur de risque ou le veuvage masculin est un facteur de risque. Certains, 20% de la population des agriculteurs, ont beaucoup de mal à faire bouillir la marmite, comme j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup mais on ne dégage pas de revenus et ça, c'est aussi un vrai problème. Et puis, il y a aussi des questions de dignité, d'estime de soi. Cette dignité, elle est mise à mal lorsque l'ensemble de la société dit des agriculteurs qu'ils sont possiblement des pollueurs ou des nourriciers qui ne sont pas responsables et qu'ils ont tendance à donner des produits qui sont possiblement dangereux à la santé. Et ça, c'est quelque chose qui, dans l'esprit des agriculteurs, est extrêmement dangereux. Et je crois que de la même manière que le monde agricole doit considérer qu'un fonctionnaire n'est pas un fainéant, de la même manière, l'ensemble de la société doit accepter l'idée que les agriculteurs ne sont pas ces responsables pollueurs, alors qu'ils sont souvent ceux qui entretiennent la planète. Et je crois que dans notre société, on a besoin de s'accepter les uns les autres. Et puis d'autres éléments peut-être importants. Dire qu'il y a beaucoup de pudeur, certainement trop de pudeur, de déni du risque, c'est-à-dire que les agriculteurs qui ne vont pas bien vont avoir tendance à travailler plus pour essayer de s'en sortir, et c'est souvent là que, ne consultant pas, ils vont s'enfermer dans leurs difficultés professionnelles. Et enfin, j'en termine par une chose importante. Dans l'agriculture, on se transmet un outil de travail. C'est vrai que maintenant, il y a des installations qu'on dit hors cadre, de gens extérieurs à l'agriculture, plus ou moins. Mais dans beaucoup de cas, on se transmet l'exploitation de parents à enfants. Et c'est une difficulté parce que les parents disent, si je ne transmets pas, je suis celui par lequel l'exploitation s'arrête. Mais si je transmets, il va en baver. Il va avoir possiblement de la peine à franchir toutes les révolutions permanentes de l'agriculture. Et donc cette question-là aussi, qui est une question de la transmission, fait peser sur les épaules des agriculteurs un poids moral qui peut être insupportable pour certains d'entre eux. Voilà en vrac un certain nombre de points qui me paraissent importants.
Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez voulu évoquer l'aspect du suicide, parce que les chiffres sont assez quand même importants. 400 agriculteurs mettent fin à leurs jours par an, c'est ça?
Alors oui, on a du mal à estimer cela parce que parmi les 12 000, 13 000 suicides en France que l'on connaît, le monde agricole est particulièrement frappé, sans doute plus que la moyenne des autres professions. Lorsque je dis 400, c'est un chiffre évaluatif. Il est en rapport avec les constats qu'on a faits dans un certain nombre d'études. La Mutualité sociale agricole a mis en place, avec l'Institut national de veille sanitaire, un observatoire du suicide en agriculture des salariés et des non-salariés, mais on est sans doute sur ces chiffres-là. C'est beaucoup trop. Voilà, on est sans doute sur plus d'un suicide par an en agriculture, essentiellement des hommes, mais aussi des femmes.
Est-ce qu'il existe des facteurs qui favorisent le suicide ?
Alors, les facteurs importants peut-être que l'on peut citer et que les collègues constatent aux quatre coins du pays lorsqu'ils essayent d'organiser une prévention du suicide, d'abord la dépression. La dépression doit être mieux soignée dans notre pays, elle est difficile à prendre en charge, souvent les gens se font prendre en charge trop tardivement, et en particulier en agriculture, donc le meilleur prise en charge de la dépression est un premier point absolument essentiel. Et puis la question de la... je dirais de l'économie est aussi une question importante, c'est-à-dire la manière dont on a du mal à dégager du revenu peut poser problème aussi parce que on s'épuise, on se fatigue considérablement à ne pas gagner sa vie malgré les heures accumulées. Voilà déjà deux points importants. Et puis, je pense qu'il y a un vrai manque dans l'agriculture qui est celui des indemnités journalières maladie. Quand on est épuisé ou bien quand on a une maladie grave ou des douleurs très importantes, une sciatique ou je ne sais quoi, eh bien, on s'épuise à devoir continuer à travailler parce qu'il n'y a pas d'indemnité journalière maladie chez les exploitants agricoles. Et là aussi, la MSA travaille à faire naître cette amélioration de la protection sociale qui est nécessaire pour que les médecins puissent mettre mieux en place des mesures thérapeutiques.
Alors oui, vous parlez des mesures thérapeutiques. Justement, est-ce que la prévention est-elle possible ?
Alors oui, je pense qu'elle est possible. Elle est possible surtout dans ce que j'appellerais la main tendue. Cette politique de la main tendue, elle est essentielle et elle est, entre guillemets, possible pour chacun d'entre nous. Quelquefois, vous savez, les professionnels de santé peuvent se tromper. Peuvent passer à côté d'une difficulté majeure d'un exploitant agricole ou d'un salarié ou de tout un chacun qui peut cacher sa peine ou mal l'exprimer et dans le flot des consultations, ça peut passer inaperçu de temps en temps. Et alors, en fait, ce que je dis dans la politique de la main tendue, c'est recommandé par les autorités de santé en matière de prévention du suicide, c'est que pour chacun d'entre nous, quand quelqu'un semble aller mal, qu'il est stressé, qu'il a des idées noires ou qu'il semble totalement épuisé, rien n'empêche de lui poser la question de savoir s'il a eu des idées noires, s'il a pensé au suicide. C'est de toute façon un moyen de montrer qu'on s'intéresse à lui. Et en fait, les gens qui souffrent de cette baisse de l'estime d'eux-mêmes parce qu'ils se sentent en échec, qu'ils sentent qu'ils ont des difficultés à exister dans la société, eh bien, quand on s'intéresse à eux, y compris en leur posant cette question douloureuse, est-ce que t'as pensé au suicide, c'est quelque chose qui montre qu'on s'occupe d'eux, qu'on a envie de les garder vers nous. Donc je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire.
Et difficile, même manière, c'est quand même difficile de faire ça.
C'est difficile, mais je crois que de la même manière que beaucoup pensent que quand on a un ami qui a un cancer, c'est difficile d'aller le voir parce qu'on ne sait pas ce qu'on va lui dire, je crois que c'est pas comme ça que se pose la question. Vous savez, quand on est malade, quand on est épuisé, quand on est dépressif, eh ben, même si ça n'est qu'une poignée de main et une question comme celle-là qui est posée, ça montre qu'il y a un vrai intérêt qu'on porte à cet ami, à ce voisin ou à ce parent. Donc je crois que il est certain que ça redonne sens et donc la personne dit des choses, vous l'avez fait cette démarche Et ensuite, bah, il y a des choses à empiler. C'est sûr que ensuite, ça peut être la consultation médicale, un certain nombre d'autres tentatives qui peuvent exister ensuite. Mais cette question-là, toutes les autorités sanitaires considèrent qu'il faut les poser, y compris lorsqu'on est non médecin. J'ajoute que dans la prévention, il faut dire qu'il n'y a pas de petites tentatives. Il n'y a pas de ce que les gens appellent en le balayant d'un revers de la main. Ah ben il a fait ça, mais c'est seulement un appel au secours, mais c'était pour qu'on s'occupe de lui. Mais c'est, de toute façon, il savait bien qu'il allait se rater, entre guillemets. Voilà des phrases qui sont des phrases inappropriées. Il n'y a pas de petites tentatives, il n'y a que des tentatives, et donc il faut les prendre en charge à plein.
C'est la raison pour laquelle donc il est question de la mise en place d'un réseau de veille et d'alerte.
Absolument. Et donc, aux quatre coins de la France, à la suite du plan maire du ministre de l'Agriculture et à la suite des travaux de la MSA, il a été décidé que dans toutes les MSA de France, il faudrait mettre en place une cellule avec l'assistante sociale, le médecin du travail, le médecin conseil, éventuellement avec l'appui de psychologues, de telle manière que les gens puissent faire exprimer les difficultés sur lesquelles ils butent. Voilà, nous n'avons pas encore une fois de réponse toute faite, de réponse à plaquer systématiquement parce que chaque fois ce sont des cas différents, mais à la fois il faut que les gens sentent qu'il y a la place pour s'exprimer et qu'on doit écouter. Alors on est pris par une législation à la MSA, on a des obligations légales, on doit appeler des cotisations, on ne peut pas tout faire. Mais à la fois, ce qu'on veut, c'est que les gens entendent qu'on se préoccupe de leur situation, qu'on est conscient des difficultés et qu'on essaye de mettre en place une réponse collective en écoutant la difficulté et puis en essayant de voir ensemble, mais d'abord avec le premier intéressé ou la première intéressée, ce qui serait possible de faire.
D'accord. Donc vous pensez que la situation s'est aggravée par rapport à il y a une dizaine ou même une vingtaine d'années ?
J'aurais du mal à l'affirmer dans la mesure où nous n'avons pas de chiffres objectifs qui montrent que les choses ont bougé. On a des chiffres que moi j'ai travaillé sur 6 années qui englobent la période de la fin de la crise de la vache folle. Sur cette période-là, on était chez les actifs à, selon mes statistiques, à 200 suicides par an dans la tranche des 25-55 ans, et ça ne bougeait pas de manière régulière. On était toujours sur les mêmes chiffres. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur quelque chose de stable, mais l'avenir avec l'Institut national du veille sanitaire nous montrera si on a raison ou pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la société n'est pas simple aujourd'hui, que les gens s'acceptent moins bien, que la crise, et on le voit par exemple avec l'augmentation des suicides en Grèce, la crise favorise effectivement une aggravation de la douleur morale et qu'elle ne favorise pas toujours les solidarités et les mains tendues. Il y a plus d'individualisme, plus de consumérisme, mais pour affirmer qu'il y aurait eu une augmentation, il faudrait pouvoir l'objectiver avec des chiffres. Je pense que les gens, globalement, semblent plutôt être plus en difficulté du fait de cette ambiance morose. Mais il faudrait pouvoir le prouver avec des chiffres.
Très bien. Eh bien, nous allons conclure là. Peut-être vous avez quelque chose à dire pour terminer notre entretien.
Ben écoutez, moi je trouve qu'en Sud-Aquitaine, sur ce que j'ai vu, en particulier entre le Conseil général, les chambres d'agriculture, la mutualité sociale agricole, les choses fonctionnent bien, qu'il y a des solidarités et des partenariats, qu'il y a beaucoup de réactivité. J'ai vu des délégués à Orthez qui étaient manifestement très mobilisés par les questions qui nous occupent. Donc je pense qu'il n'y a pas que des choses coûteuses pour répondre aux difficultés des hommes, il y a aussi beaucoup de convivialité et de solidarité à travers des associations, de la vie en commun qui répondent aux questions qui nous occupent, et c'est ça qui est important. C'est pas que dépenser pour répondre à des questions de santé, c'est aussi vivre ensemble, et vivre ensemble, je sais que dans le Sud-Ouest, on sait faire ça.
Très bien. Eh bien, c'était merci beaucoup de nous
Je vous
avoir
en prie.
accordé cet entretien et puis bon travail et puis on pense que la mise en place de ce réseau de veille et d'alerte va pouvoir aider à tous ces gens qui sont plutôt dans l'isolement ou la solitude.
Voilà, je vous remercie beaucoup de cette interview. Au revoir.
Merci, au revoir.